Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir aux empires médiatiques en France. À l'ordre du jour ce soir, en achetant des médias, les milliardaires achètent-ils aussi de l'influence? Selon une enquête du journal Libération, un groupe de 10 milliardaires représente 90% des ventes de quotidiens, 55% de l'audience des télévisions et 40% de celle des radios. Ils s'appellent par exemple Xavier Niel, Bernard Arnault, Arnaud Lagardère, Daniel Kretinsky, Martin Bouygues, Vincent Bolloré et plus récemment à être entré dans ce club, Rodolphe Saadé, le patron de l'armateur CGA-CGM, installé à Marseille, a en quelques années investi dans le journal Marseille. Essayer la Provence, racheter la Tribune, créer la Tribune Dimanche pour s'opposer au rachat du journal du dimanche par Vincent Bolloré et racheter au patron du groupe Altice et de SFR, Patrick Drahi, très endetté, Altice Média, soit la chaîne BFM et les chaînes de radio et de télé RMC. Une arrivée discrète jusqu'à la mise à pied du directeur de la Provence après une une de ce quotidien, éditée à la suite de la visite du président Macron à Marseille. Aurélien Viers a été ensuite réintégré après une grève éclair de la rédaction, mais désormais, les journalistes demandent d'avancer sur la charte d'indépendance, ce qui a été visiblement accepté par cette même direction. Comment interpréter ces rachats massifs de journaux et de chaînes par des groupes ayant fait fortune dans les télécommunications, l'industrie ou le commerce? Les lignes éditoriales de ces organes de presse peuvent-elles échapper à la volonté d'influence de leurs propriétaires dans un contexte de préparation, par exemple d'une présidentielle assez proche? Les médias traditionnels mis à mal par la captation des ressources publicitaires sur Internet par les GAFAM doivent-ils se concentrer encore plus au risque évidemment de tuer la diversité des opinions et de ces mêmes médias? Nous en parlons avec Nathalie Sonnac. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure en sciences de l'information et de la communication, spécialiste en économie des médias et du numérique, ex-membre du CSA, et vous êtes autrice du Nouveau Monde des médias, une urgence démocratique chez Odile Jacob. Avec nous également Valentine Auberti, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes co-directrice de la rédaction de Mediapart et co-réalisatrice du documentaire Media Crash, qui a tué le débat public. Enfin, troisième invitée à distance, Julie Sédel, politiste, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférences en sociologie et en sciences politiques à l'Université de Strasbourg et autrice de Sociologie des dirigeants de presse à la découverte. C'était il y a 2 ans.
Sur les concentrations, sauf à se voiler la face, mais aujourd'hui, vous le savez très bien, les médias, les journalistes, s'ils veulent faire un travail de qualité, parce que l'information fiable, de qualité, ça a un coût. Et donc, si vous ne vous adossez pas à un groupe industriel, je ne vois pas comment on fait aujourd'hui. Et plus vous paupérisez les journalistes, plus vous dégradez la nature de l'information, pour ne pas dire que ça conduit à de la désinformation. Et donc, moi, je suis assez favorable, et je pense que c'est vital, que des groupes industriels puissent être propriétaires de médias. Bien au contraire. Et la loi garantit l'indépendance, justement, aux journalistes. Ça, la loi est très claire là-dessus. Et l'intérêt économique de l'entreprise ne doit pas compromettre cette indépendance. Et l'ARCOM y veille, et vous le savez, comme pour le pluralisme, puisque la dernière décision du Conseil d'État qui renvoie au respect du pluralisme pour l'ensemble de l'audiovisuel, le président de l'ARCOM a dit qu'il y travaillait, puisqu'il doit faire des propositions dans quelques semaines. Donc tout ça, évidemment, on en tient compte.
Vous avez reconnu Rachida Dati, ministre de la Culture, jeudi dernier, lors de son audition par la commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur l'attribution et le contrôle des autorisations de fréquence TNT. Alors, vous n'êtes pas adossé à un groupe industriel et pourtant, vous produisez une information de qualité à Mediapart. Comment faites-vous, Valentine Auberti?
Eh bien, parce qu'on a patiemment, depuis 16 ans, construit notre indépendance financière. Mediapart s'est créé en 2008 sur le constat, déjà à l'époque, que une presse indépendante devait exister, hein, par des cofondateurs qui avaient, eux, subi des revers dans leur rédaction, que ce soit Le Monde ou Libération, des censures, des pressions. C'est parti d'un pari fou, se dire on va faire de l'information en ligne, on va la faire payer. Personne n'y croyait à l'époque, ça fonctionne aujourd'hui, c'est Mediapart est rentable depuis 13 ans. Et donc, bien...
Il y a combien d'abonnés maintenant?
220 000, peut-être, on en est peut-être à 230 là, mais disons 220 000 abonnés, je dirais solidement arrimés à Mediapart. Un journal qui est bénéficiaire depuis 13 ans, donc on a une situation financière exceptionnelle qui nous permet une indépendance totale, sans actionnaire, sans publicité, sans argent public, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter, c'est le cas, et c'est ce qui fait qu'on est totalement libre d'enquêter sur tous les pouvoirs politiques, économiques.
Et ça veut dire qu'on peut donc créer un journal sans être adossé à un groupe industriel, un journal, une publication, une revue, ou encore effectivement une télévision ou une radio.
Alors, une télévision, une radio, c'est probablement encore plus coûteux. Oui, je crois qu'on peut, puisque plein d'autres initiatives de journaux indépendants se créent, avec des modèles économiques différents, mais indépendants de grands industriels. C'est difficile. Ne faisons pas comme si c'était possible et réplicable à l'infini. C'est difficile, mais c'est possible. Et puis, il y a tout le système des aides à la presse. Peut-être en parlerons-nous, des aides directes, qu'il faut sans doute réformer pour aider les médias qui en ont le plus besoin, et pas ceux adossés à des industriels milliardaires.
Ici même, à ce micro, on parlait du pluralisme, parce que c'est une question qui est très débattue aujourd'hui dans la sphère publique, pourrait-on dire, ce pluralisme des médias. Et Sylvain Bourmeau, qui travaille à la fois à France Culture et qui a fondé AOC, nous disait ici il faut une loi anti-concentration, il faut une loi contre justement le rachat des médias par des grands groupes industriels. Est-ce que vous êtes d'accord, Nathalie Sonnac, qu'il a dit ça il y a trois semaines ici, à ce même micro?
Oui, on voit bien que depuis une vingtaine d'années, on a une transformation majeure, de toute façon, du paysage médiatique, de la façon dont on a tous l'habitude de s'informer. C'est vrai pour les plus jeunes sur les réseaux sociaux, mais finalement, c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu. De nouveaux acteurs sont présents. On parle beaucoup des industriels, évidemment, nous y reviendrons, mais on a aussi des acteurs qui s'appellent les GAFAM, les Google, les Apple, les Facebook, les Amazon, qui sont extrêmement puissants. Bien plus puissant aujourd'hui que les propriétaires actuels de nos médias qui rencontrent des difficultés économiques majeures.
Et vous êtes donc d'accord avec Rachida Dati quand elle dit ça coûte de l'argent de faire de la bonne information et donc il faut des gens qui aient beaucoup d'argent pour pouvoir investir dans cette information, Nathalie Sonnac?
Mais Xavier Niel, à la dernière interview, pendant l'audition de l'enquête parlementaire sur
le renouvellement. Donc qui a investi dans Le Monde en particulier.
Qui a investi dans Le Monde et disait lui-même qu'il fallait énormément d'argent pour pouvoir acheter une chaîne de télévision. Donc bien évidemment, c'est quelque chose qui est important. L'innovation technologique, les innovations, on a besoin des industriels pour pouvoir posséder finalement des médias. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul modèle qui existe. Et d'ailleurs, Mediapart est un excellent exemple, mais il est quand même l'un des seuls à avoir ce modèle économique de ne se centrer uniquement sur l'abonnement, ne pas bénéficier de recettes publicitaires. 86% des Français aujourd'hui ne paye pas pour s'informer.
Julie Sedel, vous avez travaillé pour un excellent livre sur la sociologie des dirigeants de presse, sur, disons, une sorte de spectrographie de ceux qui dirigent aujourd'hui la presse, un travail sociologique très imposant. Comment pouvez-vous analyser justement la présence, comme je disais au tout début, de ces milliardaires, 10 milliardaires, disait Libération, qui possèdent 90% des quotidiens nationaux, 55% de l'audience de télévision et 40% de celle de radio?
Mais elle se traduit dans les rédactions, enfin en tout cas dans les journaux, hein, par un changement de profil des dirigeants, plutôt des managers en fait, qui vont être en charge des aspects économiques et qui vont prendre le pas, ou des aspects d'administration, et qui vont prendre le pas sur ceux qui sont des journalistes et qui ont ce qu'on appelle un capital de métier. Donc on le voit bien à partir des années 2010, avec le rachat du Monde par exemple, on voit bien l'extension du territoire des managers dans les journaux et dans les groupes de presse.
Il faut peut-être rappeler là, effectivement, comment la presse de pré-guerre, par exemple, est née justement en partie de la résistance, bien évidemment, et de journalistes qui ont pris la tête de ces médias pendant une assez longue durée, avant d'être remplacés par ces managers que vous décrivez.
Oui, tout à fait. Dans les années 45, au moment de la reconstruction après la guerre, hein, donc il y a un nouveau patronat qui a été recruté sur des critères, de non-collaboration. Et donc on a vu arriver des résistants à la tête des journaux. Et puis progressivement, c'est le modèle du journalisme de politique qui est devenu un peu la norme dans les journaux et notamment dans la presse écrite. Et puis dans les années 80, avec la concentration des médias, enfin la libéralisation des médias, on a vu arriver des managers. Donc des gens qui ont des profils plutôt école de commerce ou qui ont pu faire aussi des passages dans des cabinets ministériels. On retrouve également des hauts fonctionnaires dans la presse écrite et dans l'audiovisuel. Donc ce mouvement un peu de fond, il va s'intensifier dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui.
Et donc, ce ne sont pas eux qui sont propriétaires, ces gestionnaires que vous mettez en avant dans votre travail de sociologie des dirigeants de presse, mais les propriétaires sont au-dessus d'eux, et eux, ils ont un autre profil encore?
Alors effectivement, ce sont des gens qui sont nommés, recrutés par les actionnaires de médias et qui sont voilà chargés du management au jour le jour. Ce sont des acteurs opérationnels dans les journaux. Ce sont des salariés, hein, c'est-à-dire qu'ils ont un employeur au-dessus d'eux. Ce sont pas des actionnaires. Voilà. Donc
avec des tensions potentielles entre ces actionnaires et eux-mêmes. Je crois tout à l'heure que j'ai dit 90% des ventes des quotidiens nationaux. Nathalie Sonnac, vous avez tiqué. C'est pas tout à fait ça.
Non, c'est pas tout à fait ça. On a plus de 1000 radios en France, qui est une chance exceptionnelle. La problématique aujourd'hui n'est pas celle du pluralisme, qui est complètement posée. On a 26 chaînes de télévision qui sont accessibles gratuitement. Les trois grands groupes qui décernent les 70% de la part d'audience aujourd'hui, c'est TF1, M6 et le groupe France Télévisions, qui est un groupe du service public.
Valentine Auberti, donc on voit bien effectivement cette concentration, vous y avez travaillé pour ce documentaire Média Crash, vous parlez même, vous, plutôt d'hyper-concentration.
Mais disons que on a produit ce documentaire à l'aube de la campagne de la présidentielle de 2022, donc à un moment, il faut s'en souvenir, où Vincent Bolloré était en train d'acquérir le groupe Hachette, donc l'édition avait donc un appétit qui ne cessait de s'accroître. Il y avait aussi un projet de fusion M6-TF1 abandonné depuis, hein. Et puis à travers ces chaînes, ce qu'on a montré dans le documentaire, Vincent Bolloré propulsait la candidature d'Éric Zemmour, que ça soit au travers de cette quotidienne qu'il animait sur CNews, mais aussi à travers l'émission de Cyril Hanouna, TPMP. Donc on était dans un moment assez particulier, de moment démocratique important, une présidentielle, en tout cas en 5e République, hein, avec l'élection d'un président, et avec, je dirais, une utilisation d'une chaîne d'information notamment, mais pas que, en tout cas de chaînes qui utilisent des fréquences qui sont des biens publics, les chaînes de la TNT, pour orienter le débat public sans vraiment le dire. Avec une ingérence de Vincent Bolloré, hein, qui a reconnu, y compris devant la commission d'enquête sénatoriale, que c'est lui qui avait fait venir... Enfin, il s'en est plutôt défendu devant la commission d'enquête, mais c'est ce qu'a dit Éric Zemmour. C'est lui qui a fait venir Éric Zemmour quotidiennement sur CNews. Donc, voilà, plein d'éléments comme ça qui montrent que Vincent Bolloré poursuit un dessein politique, oserais-je, idéologique.
Mais cela, d'une certaine manière, vous qui avez été au CSA, est-ce que vous avez vu venir ce que décrit à la fois Valentine Auberti et Julie Sedel, Nathalie Sonnac? Est-ce que vous avez vu venir cela? Parce que quand on vous lit, vous avez un regard porté plutôt sur autre chose, sur en particulier ce qui vient d'outre-Atlantique, les GAFAM, etc., etc., comme menace plus importante selon vous que ces menaces dont on parle actuellement à propos de ces milliardaires qui dirigent des groupes de médias.
Si vous me permettez l'expression, j'ai l'impression que la maison brûle et qu'on regarde ailleurs. Aujourd'hui, la problématique est centrée et la question du pluralisme, de l'honnêteté de l'information, de l'indépendance sont complètement en train de passer à l'as et on se concentre et on se focalise uniquement sur Vincent Bolloré qui possède, si vous me permettez juste d'aller jusqu'au bout, qui possède C8 et CNews en matière de chaînes de télévision, Europe 1 et le JDD. Sans vouloir faire offense aux journalistes qui appartiennent à ces rédactions, ça ne fait pas des audiences de dingue non plus. De quoi parle-t-on?
De quoi parle-t-on? On parle d'influence. Mais ça n'a peut-être pas des audiences de dingue, mais ça a tout de même de l'influence dans le débat public.
Ça a de l'influence dans le débat public, mais le JT de TF1, c'est 6 millions de téléspectateurs. Le JT de France 2, c'est 4 millions de téléspectateurs. À côté de Vincent Bolloré, il y a d'autres actionnaires, il y a d'autres propriétaires. Xavier Niel, c'est 500 journalistes dans le groupe Le Monde. Est-ce que les journalistes du Monde ne sont pas indépendants? Il y a le groupe Rossel, il y a le groupe Ebra, il y a le Crédit Mutuel qui est derrière, il y a Bernard Arnault. Oui, donc, la question de Vincent Bolloré est une véritable question, dans la mesure où sur ces chaînes, à la fois on voit qu'il y a une dérive possible d'une chaîne d'information vers une chaîne d'opinion, possible dérive, mais qui est en train aujourd'hui d'être mise sur la table, repensée avec de nouveaux outils, c'est quand même une première point. Et donc, aujourd'hui, c'est à l'aune de ce premier point qu'il faut regarder la question du pluralisme. Mais toutefois, le comportement de Vincent Bolloré décrit à l'instant n'est pas celui des autres propriétaires. Et donc... Alors, Rodolphe Saadé vient de, effectivement, de nous mettre une petite.
Parce qu'il faut préciser qu'effectivement, quand Rodolphe Saadé rachète la Provence, puis rachète la Tribune, puis lance la Tribune Dimanche pour justement faire pièce au JDD de Monsieur Bolloré, eh bien. On entend une petite musique, en tout cas dans les médias, qui dit bah voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt centriste ou plutôt centriste, centre gauche, on ne sait pas, ou centre droit, mais en tout cas c'est quelqu'un qui ne va pas être aussi interventionniste que Vincent Bolloré dans ses médias. Et puis arrive l'affaire de la Provence, effectivement.
Exactement. Alors juste pour dire où se situent ses opinions politiques, je vous lis ses déclarations face aux salariés. J'apprécie globalement sa politique économique. Il parle d'Emmanuel Macron, mais je n'oblige personne à penser comme moi. Ça a le mérite de la franchise. Bon, quand il a vu les salariés les représentants des salariés du groupe Altice, il leur a dit qu'il serait pas interventionniste. Il a quand même aussi dit que il y avait une enquête faite sur ses antennes sur son groupe de transport maritime, je le cite, je ne réagirai pas bien et je le ferai savoir. Bon,
Côté de ça, Libération existe, Le Figaro, L'Humanité.
Je parle de Rodolphe Saadé. J'ai pas terminé.
J'entends bien.
Rodolphe Saadé, donc il dit ça aux futurs salariés de son futur groupe. Et puis ensuite, il y a l'affaire de la Provence, une qui déplaît, avec des relais autour de Marseille,
politique.
Dans le monde politique, je dirais plutôt, on va dire proche d'Emmanuel Macron, qui se plaignent de cette une qui laisse comprendre que en gros, il y a toujours du deal à Marseille. Malgré le passage d'Emmanuel Macron là-bas. Et puis, le directeur de la rédaction est mis à pied. Oui. Une grève a fait que, en tout cas, peut-être
il a contribué
à ce qu'il soit réintégré. Mais tout de même, c'est quand même très inquiétant.
En tout cas, c'est
l'indépendance des rédactions.
Julie Sédel, justement, vous parlez dans vos travaux d'opacité du capitalisme de presse. Est-ce que ça fait partie de cela, justement, pour vous, ce type de réaction, c'est-à-dire on ne sait pas très bien qui appuie sur le bouton, qui déclenche une mise à pied d'un directeur de la rédaction, etc., etc.
Alors moi je voudrais revenir sur une chose, c'est que la question du propriétaire, enfin le terme propriétaire est très souvent utilisé pour parler des actionnaires majoritaires de presse, et en fait il me semble que c'est une erreur, parce que en droit français c'est le conseil d'administration qui décide en fait. Et ce qui fait que le propriétaire ne peut en aucun cas se comporter comme chez lui, comme s'il était chez lui dans les journaux, qu'il possède, dont il est actionnaire majoritaire.
À savoir qui nomme le conseil d'administration, en fait. Tout de même.
Voilà. Alors qui nomme le conseil d'administration, c'est effectivement très important. Mais voilà, c'est juste pour replacer le débat dans un contexte plus général, qui veut que, en fait, de quel pouvoir dispose l'actionnaire majoritaire ? Eh bien, il dispose de deux pouvoirs, l'allocation des ressources et le recrutement, la nomination des dirigeants. Donc ça, c'est un élément important. Et au-delà de ça, il n'a en principe pas le droit d'intervenir sur la ligne éditoriale. Et cette histoire, cette affaire de la Provence que j'ai eu le loisir de regarder dans le détail hier, en fait, il me semble qu'elle entremêle en fait tout un ensemble de récits et qu'elle est plus complexe que ce qu'on essaye de lui faire dire, en fait. Alors, par exemple...
Qu'est-ce que vous voulez dire ? Précisez.
Alors, par exemple... On ne sait pas exactement quand et comment l'actionnaire est intervenu sur le contenu.
Effectivement.
Un article du Point que c'est en fait le DG de la filiale média du groupe CM1, CGM, Why Not Media, donc Jean-Christophe Tortora, qui découvre la une le lendemain, qui appelle le DG de l'information de la filiale et le DG de la Provence pour les rencontrer au siège de la Provence à 8h30. Donc là, je cite Le Point. Et donc, on n'a pas exactement d'informations sur qui validerait le fait que l'actionnaire soit intervenu. Donc, soit il est intervenu et dans ce cas, évidemment, ce n'est pas transparent, puisque s'il intervient, il compromet l'image du groupe. Donc c'est une faute en fait d'intervenir sur un contenu parce que ça met à mal la réputation des organes de presse, et la réputation c'est un capital très fragile. Ça peut ça peut être une hypothèse, pourrait être que en fait le DG anticipe sur les désirs de l'actionnaire en essayant donc de riposter par la mise à pied du directeur. Alors, un autre point qui me semble important, c'est cette une. En fait, cette une, elle pose quand même problème, malgré, voilà, alors je comprends qu'elle pose quand même problème, c'est-à-dire...
Il faut rappeler effectivement que ce sont des jeunes phrase, qui sont dos à la caméra, enfin dos à l'appareil photographique, et il est parti, dit la une, nous restons, ou quelque chose comme ça, j'ai plus exactement le titre en tête.
En fait, cette une, elle reprend la phrase d'un habitant qui s'appellerait Drahim, et qui réagit, et qui dit, ils ont trouvé tous les moyens nécessaires pour encadrer la visite du président, il est parti et nous, on est toujours là dans la galère. Et ça devient, en titre de une, il est parti, on est toujours là, accompagné d'une photo qui présente deux silhouettes d'hommes jeunes dont on supposerait, alors on ne sait pas pourquoi, qu'ils seraient des dealers. Et je pense que ça, en fait, c'est un vrai point important qui pourrait susciter davantage l'indignation et qui renvoie, en fait, à la manière dont les habitants des quartiers d'habitat social sont plus parlés qu'ils ne parlent, pour reprendre cette phrase de Pierre Bourdieu. Et voilà. Et du coup, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça n'a pas posé problème non plus à la rédaction de La Provence, cette mise en scène, dont d'ailleurs c'est départi le directeur de la rédaction. Et ça, je trouve que c'est aussi un point qui mérite l'attention, bien que le débat sur l'actionnariat soit central, bien sûr.
Absolument. Nathalie Sonnac, brièvement, et Valentine Auberti, avant que nous fassions une petite pause.
Non, pas brièvement, c'est trop important pour, que...
pour être bref. On fera peut-être pas de pause, alors on verra.
Écoutez, moi je crois que la problématique aujourd'hui, c'est que le modèle économique de l'ensemble des médias est en train de vaciller. Qu'il y a de moins en moins de lecteurs. Que la presse écrite a perdu 70% de ses revenus publicitaires.
Vous dites ça tout de même face à quelqu'un de Mediapart qui voit augmenter ses revenus.
Non mais j'entends bien, mais si à chaque fois on prend le point, c'est-à-dire qu'il sort du nuage de points, comme disent les statisticiens, donc c'est-à-dire que je regarde l'ensemble des industriels et je prends le cas Bolloré, je prends l'ensemble des titres de presse et je prends le cas Mediapart. Vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas de crise économique de la
presse. Ah non, pas du tout, c'est pas du tout ce que je dis.
Donc il y a bien une crise économique. Cette crise économique, elle a plus de 20 ans. Aujourd'hui, la presse écrite a perdu 70% de ses revenus publicitaires. Ça, c'est un fait. Donc Mediapart va bien et nous en sommes ravis. Ce n'est pas le seul titre. Et s'il n'y avait qu'un seul titre de presse, il y aurait une mise en cause de notre pluralisme. C'est ça qui aujourd'hui est en danger. Le deuxième élément qui me semble essentiel aujourd'hui, c'est que si nous n'avons pas de médias, nous avons une démocratie qui vacille. Aujourd'hui, principalement, ce sont des industriels qui investissent dans nos médias. Qu'est-ce que l'on souhaite ? Qu'il y ait du pluralisme, qu'on ait la garantie d'une production d'une information de qualité et qu'on ait de l'honnêteté de l'information. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder ? Regardez qu'aujourd'hui, on est dans un big bang médiatique, que les consommateurs ne consomment plus l'information comme ils l'ont consommée il y a 20 ans, qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux verrouille et contrôle l'accès à l'information et que demain, l'intelligence artificielle sera dans toutes les salles de rédaction et produira l'information. Donc je pense que l'urgence, il est de trouver d'ores et déjà un nouveau cadre qui prenne en considération aujourd'hui les nouveaux acteurs et en même temps, évidemment, le renforcement de la protection d'une information de qualité et la protection des journalistes et de la séparation des pouvoirs.
Et de revenir en particulier sur la loi de 86, on y reviendra peut-être. Valentine Auberti.
Oui, non, rapidement, en 3 minutes, non, je déconne, mais simplement, j'entends dire qu'il faut des industriels pour financer les médias, sinon on n'aurait pas de pluralisme. Mais enfin, on n'a pas du pluralisme à n'importe quel prix. C'est-à-dire que le simple fait que des industriels achètent des médias et les fassent n'est pas une garantie de pluralisme.
Complètement,
en réalité. Mais voilà.
Je n'ai pas dit ça.
Et donc, pour moi, y compris ce que dit Rachida Dati sur le fait d'être des gros groupes pour tenir, etc., me semble un peu court. Quel moyen effectif d'indépendance on met dans ces rédactions qui sont détenues par des actionnaires majoritaires, qui sont des industriels. Il y a tout un tas de solutions qui sont présentées par des économistes des médias, par
Vraiment, c'est vraiment un point que l'on partage totalement. Mais de dire qu'aujourd'hui, le pluralisme est mis en danger, pas complètement. Que l'indépendance est à regarder, mais aujourd'hui, nous avons une myriade de sites, de blogs, de nouveaux titres qui cartonnent, si vous me permettez l'expression, sur les réseaux sociaux. Et là, en fait, on est en train de regarder uniquement des médias qui sont propriétaires, c'est pas n'importe quel média, pour moi, c'est vraiment ceux que je défends, mais néanmoins de dire que nous n'aurions pas besoin d'industriels, que nous n'aurions pas besoin d'argent pour faire fonctionner un média, bien je ne partage pas ce point de vue. Pour moi, l'entreprise médiatique est une entreprise à part entière et entièrement à part. Le cadre de Dallois doit prendre en considération ce entièrement à part, mais laisser jouer l'entreprise à part entière.
Alors, il y a aussi cette dimension, et d'ailleurs des grands spécialistes des médias comme Jean-Clément Texier, dont la parole est rare, mais quand il s'exprime, il connaît un peu le sujet, en tous les cas, pour participer à des rachats, des organisations de mise en place de nouveaux groupes. Il dit, en fait, les groupes de médias français sont des nains, par rapport à des groupes de médias étrangers, et donc la concentration que vous critiquez, même l'hyper-concentration que vous critiquez, Valentine Auberti, elle est devant nous, elle n'est pas derrière nous.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il va y en avoir encore plus de concentration, puisqu'il faudra, selon lui, mais parce qu'il a son point de vue évidemment de spécialiste, de conseil à des racheteurs de titres de presse, il dit cela.
Je ne suis pas dans sa tête, mais effectivement, si on continue à laisser faire, si le politique, si la puissance publique qui a le pouvoir quand même de décider que cette loi 86, qui a déjà subi pas mal de modifications, mais qui est tout de même plus tellement à la page.
90 fois.
Voilà. Si effectivement la puissance publique ne prend pas les choses à bras le corps, on n'entend pas non plus la ministre de la Culture sur cette concentration-là. Au contraire, elle semble même considérer qu'elle est plutôt bénéfique. Moi, je trouve que c'est pas au niveau de l'importance de ce débat, qui n'est pas qu'un débat de pluralisme, qui est aussi un débat d'indépendance de l'information et donc de son honnêteté et de savoir d'où on parle en fait quand on s'adresse à nos auditeurs, nos lecteurs, nos lectrices.
Julie Sedel.
Oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que cette montée en puissance des managers, elle s'accompagne aussi d'une mise à distance des journalistes et des instances stratégiques. Donc, ce n'est pas rien, en fait, puisqu'on parle de l'indépendance et de l'autonomie journalistique. C'est que finalement, et là, on le voit bien dans la chaîne de décision dans le cadre de l'affaire de la Provence, c'est le DG de la filiale média, qui n'est pas journaliste, qui va convoquer de fil en aiguille les gens qui sont en dessous de lui. Et on voit bien que la position en fait, des journalistes, elle est minoritaire dans cette chaîne de décision. Donc, c'est ça aussi la conséquence directe, pratique, qu'a le rachat de médias par des industriels sur finalement le sort réservé aux rédactions, quoi.
On oublie tout de même dans ces groupes dont on parle, par exemple le groupe Ouest France, je ne dis pas qu'il va très bien et qu'il va aussi bien qu'il allait il y a 10 ans, comme vous le disiez, Nathalie Sonnac, mais voilà un groupe qui a trouvé une structure pour pouvoir se maintenir, ne pas être racheté et continuer à être le premier journal, donc en termes de tirage, de France. Donc on peut dire aussi qu'il n'y a pas que Mediapart, il y a d'autres types de groupes qui peuvent être indépendants et qui peuvent ne pas être pris ou achetés par des industriels.
Lorsque je parlais de Mediapart, on parlait bien du succès que l'entreprise auprès de ses lecteurs. Mais le Ouest France, c'est la même chose. Après, lorsqu'on parle de structuration ou de financement, c'est autre chose. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Peut-être pour revenir sur et rebondir sur ce que disait Julie Sedel, effectivement, la question du pluralisme et de Valentine aussi, du coup, de pluralisme, d'honnêteté et d'indépendance de l'information, ce sont ces points-là qui sont essentiels. Et pour aujourd'hui, ce que l'on considère comme étant la concentration, et ce que vous disiez de Jean-Clément Texier, il y a des travaux d'universitaires français qui ont repris des indices de mesure de la concentration qui ne sont pas ceux, justement, de la loi de 86 qui est totalement...
Alors, parle de la loi de 86, on ne l'a pas précisé, mais il faut quand même...
Alors, la loi de 86, qui est celle de la loi qui garantit la liberté de communication et qui organise, finalement, l'équilibre économique entre les acteurs dans le monde de l'audiovisuel, donc audiovisuel, radio et télévision et services en ligne. Aujourd'hui, évidemment, on voit bien que ce champ-là est en pleine explosion, puisque de nouveaux acteurs sont présents. Mais pour revenir sur la question de la concentration, donc il y a un dispositif au sein de la loi 86 qui est un dispositif de mesure anti-concentration.
Il faut se souvenir qu'à l'époque, on parlait beaucoup du groupe Hersant et que le groupe Hersant était une sorte d'épouvantail pour dire voilà, Hersant rachète toute la presse. Bon, on n'en est plus là du tout.
Alors on n'en est plus là et d'ailleurs ça n'a jamais été efficace puisqu'en 1984, on a même parlé de loi anti-Hersant. C'est pour ça que ça serait bien qu'on repasse pas le même plat et qu'on fasse une loi anti-Bolloré, que finalement on n'attrape pas la question de la concentration. Mais pour aller jusqu'au bout, ces chercheurs français, en utilisant des indicateurs de mesure actuelle, c'est-à-dire en part d'attention, parce que c'est comme ça que se mesure aujourd'hui le marché, c'est Meta qui arrive en pole position.
Meta, donc le groupe qui possède Facebook et Instagram. Donc ça fait partie effectivement de cela. Sur ce point, Valentine Auberti, ou sur un autre point ?
Un autre point, ou en tout cas le même, j'en reviens à la question de votre émission, la question que pose votre émission, l'influence. Moi, j'ai envie de dire que si ces industriels ne cherchent pas de l'influence en acquérant ces médias, alors qu'ils le prouvent en mettant en place de réels mécanismes d'indépendance. J'en cite un qui est en vigueur à Mediapart, qui est partiellement en vigueur au Monde et je crois également aux Échos et peut-être dans d'autres médias que j'ignore, à savoir le droit d'agrément des directeurs de la rédaction. Et je vais plus loin, le droit de révocation. C'est ce qui se passe à Mediapart.
Chez vous, c'est-à-dire que la direction a profondément changé depuis la semaine dernière.
Exactement. Mais pour avoir été nommée directrice de la rédaction avec ma consœur Lénaïque Bredou, pour que nous soyons ce tandem qui dirige la rédaction de Mediapart et qu'elle et quelle responsabilité. Nous avons été nommés par la direction, nous avons été nommés pour présenter un projet éditorial que nous avons présenté à la rédaction, qui l'a voté. Elle aurait pu voter contre, elle a voté pour. Cette même rédaction est en mesure aussi de nous démettre en nous révoquant si nous ne remplissons pas notre mission et si nous ne sommes pas à la hauteur. Donc voilà, au Monde, il y a un droit d'agrément, mais il n'y a pas un droit de révocation. Ça, ce serait un premier garde-fou pour permettre l'indépendance. Encore une ou deux possibilités, mesures, on pourrait décider que les médias dont les actionnaires majoritaires sont des industriels publient les pactes d'actionnaires conclus avec les propriétaires d'un média. On pourrait aussi lister les actionnaires directs et indirects d'un média. Plus de transparence sur le schéma économique et voilà. Et ça n'existe pas.
Julie Sedel, vous
ça existe quand même.
Vous en pensez quoi de ces propositions de Valentine Auberti?
Alors moi, j'ai aucune solution, malheureusement.
Vous êtes sociologue, vous n'êtes pas conseil de direction de presse.
Absolument pas. Non, et puis je serais bien mal en peine de vous donner des solutions. J'aurais pas les outils pour y répondre. Non, moi, ce que je trouve intéressant, c'est la définition en fait du patron de presse qui est loin d'être unanime. Et on voit, ça se voit, la diversité des thèmes qui peuvent être utilisés et qui parfois agglomèrent à la fois les actionnaires, les dirigeants opérationnels, les directeurs éditoriaux. Et voilà, je trouve que ça dit quelque chose, effectivement, ça interroge. Cette absence, disons, d'accord sur la définition du groupe interroge même ce qu'est ce groupe, finalement. Donc, pour avoir travaillé dessus, moi, il me semble que, voilà, il n'y a pas... en tout cas, il y a une diversité très grande des profils, selon les institutions de presse. Et on va retrouver différentes filières aussi d'accès à ces postes. Alors ça, c'est pour mettre un peu de diversité dans le débat et rappeler peut-être que les dirigeants de presse sont pas ne forment pas un groupe homogène, loin de là. Et par contre,
on veut dire qu'ils sont pas tous sortis Sciences Po, c'est ça?
Non, alors ils ne sont pas tous sortis Sciences Po, mais par contre, ce sont majoritairement des hommes, c'est vrai. On a 16% de femmes. Et par contre, il n'y a aucun étranger. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux dirigeants du CAC 40, qui présentent un profil plus internationalisé, en France, ce n'est pas du tout le cas. Et donc en tout cas, il me semble que ça, c'est une dimension qui est importante et que je voulais souligner.
Bien sûr. Nathalie Sonnac, est-ce qu'on n'est pas aussi prisonnier de notre imaginaire, sachant un imaginaire de journaliste, c'est un imaginaire qui est nourri à la fois à l'homme qui tue à Liberty Valance et aux Pentagon Papers tels qu'ils ont été rediffusés à la télévision il y a 3 jours, qui racontent l'affaire du Washington Post pendant la guerre du Vietnam et les papiers de Daniel Ellsberg que la propriétaire, qui est pourtant membre des proches des démocrates, acceptera de publier alors que ça mettra en difficulté certains de ses propres amis, avec cette mythologie effectivement de directeurs ou de présidents de presse qui vont plus loin parce que l'information compte d'abord par rapport à leurs propres intérêts. Est-ce qu'on n'est pas prisonnier de cette mythologie qui vient beaucoup des États-Unis d'ailleurs?
Je ne sais pas si nous en sommes prisonniers. Moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il est urgent de penser autrement, de penser comme les gens pensent et comme les gens consomment l'information, qu'il est urgent de trouver un nouveau cadre, de délimiter.
Donc changer la loi de 86.
Donc changer la loi de 86 en intégrant beaucoup d'éléments que Valentine proposait tout à l'heure et que je partage. Je ne crois pas que ce soit des choix qui soient mutuellement exclusifs. Je ne crois pas que parce que nous avons besoin, et moi je partage ce point de vue, que nous avons besoin d'industriels, pas que d'industriels. C'est marrant de vouloir toujours se dire que parce que je choisis A, j'élimine B, c'est non. Nous avons justement besoin. Et c'est
oui, mais l'actualité nous montre effectivement ces rachats, etc.
Non, l'actualité, c'est vous qui le faites aussi.
On l'a choisi, bien sûr.
Vous la choisissez aussi, et vous la choisissez, et vous allez trop souvent, à mon sens, en tout cas sur ce point-là, dans le même sens, c'est-à-dire uniquement à parler d'un seul propriétaire qui possède un média.
Peut-être parce que nous sommes dans un service public de la radio et qu'on considère effectivement que ces questions-là sont des questions importantes et qu'on aimerait bien les comprendre, simplement. Mais la transparence que demandait Valentino Berti, on peut la demander à ses directeurs de presse.
Justement, c'est exactement ça. Je partage complètement ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on a besoin de transparence, on a besoin de garanties d'une honnêteté et de la production d'une information de qualité avec son indépendance. Ce que je veux vraiment souligner, c'est que celle-ci n'est pas systématiquement opposable à la présence d'un industriel. Et c'est marrant de ne pas vouloir penser
on
les
peut
choses
le penser, bien sûr.
Ensemble.
Valentine Berti.
Oui, non, autre possibilité, enfin autre de mesure à prendre, je pense qu'il faut radicalement réformer les aides directes à la presse, car aujourd'hui elles sont injustes, elles sont opaques, et il y a du gaspillage d'argent public. Plusieurs rapports le dénoncent, hein, et pas des moindres, Cour des comptes, inspection.
Rappelons que ces aides directes à la presse viennent aussi de cette période d'après la Seconde Guerre mondiale, où effectivement, il fallait aider une presse pluraliste à exister.
Oui, les ordonnances de 1944.
Voilà. Et l'objectif est tout à fait noble. Sa réalité l'est un peu moins. 10 millions d'euros distribués en 2022, dont une grande partie aux milliardaires qui sont les actionnaires majoritaires des médias. Alors, c'est pas que je m'obsède et que voilà, qu'il soit mon obsession, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez difficile pour le cerveau à comprendre que le groupe de Bernard Arnault, un des hommes les plus riches du monde et qui a un groupe extrêmement profitable, LVMH, et qui possède le Parisien Les Échos, est obtenu pour ce groupe, Les Échos, le Parisien aujourd'hui en France, 14 millions d'euros en 2022. Voilà, ça paraît assez injuste et on pourrait donc se dire qu'on conditionne, comment on les décide ces aides directes à la presse, qu'on les conditionne à un critère d'indépendance. Donc on voit si les mesures d'indépendance que j'ai citées et peut-être d'autres dont je n'ai pas parlé sont remplies et en fonction de ce critère d'indépendance, on donne plus ou moins d'aides directes à la presse, donc, par exemple.
Donc parce que Amazon Prime Video, Netflix ou autres participent au financement de la création, ils vont dire, on va leur dire, mais écoutez, finalement, vous n'avez pas le droit au même mécanisme que les autres chaînes de télévision parce que vous êtes bien plus riches.
Ça ne marche pas. Je parle des aides à la presse.
Mais ça ne marche pas.
Ça ne fonctionne pour. Je crois pas m'exprimer pour Amazon ou Netflix.
Non, ce que je voulais pas.
Ils ne sont pas des vecteurs d'information.
Alors, ça, c'est vraiment à revoir. Ils le sont, mais différemment. Mon propos était simplement de rebondir sur ce que vous disiez, à savoir que c'est parce que c'est un groupe qui est derrière un industriel riche, je voulais pas dire milliardaire, mais j'y suis.
De luxe, on peut dire.
Milliardaire qui est derrière, et donc il n'aura pas à bénéficier du même mécanisme.
Non, je propose un critère d'indépendance. Je dis juste qu'il y a quelque chose de tout de même contradictoire quand on voit la kyrielle de médias indépendants qui essaient de survivre et qui ont des difficultés à survivre.
Mais il est trop tard.
Mais pour moi, c'est un autre point. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une égalité de traitement. En revanche, qu'il y a un
critère d'indépendance, ça fait une égalité de traitement.
Je pense que le point essentiel, mais ça rejoint encore cette loi de 86 qui ne tient pas debout, mais finalement, les aides de l'État qui ne dépendent pas de la loi de 86, elles aussi sont complètement à revoir à l'aune aujourd'hui d'une ère qui est aujourd'hui numérique.
Merci à toutes les trois. Je pense qu'on pourra continuer la conversation dans une autre émission, en particulier sur cette loi de 86 et sur les propositions qu'on pourrait faire pour pouvoir la transformer en faveur d'un plus grand pluralisme et aussi d'une plus grande capacité et qualité d'information. Merci Nathalie Sonnac. Je rappelle que vous êtes autrice de « Nouveau monde des médias, une urgence démocratique » chez Odile Jacob. Merci à vous, Julie Sedel. Je rappelle que vous êtes autrice de Sociologie des dirigeants de presse à la découverte. C'était en mai 2022. Et merci à vous, Valentine Lamberti, co-directrice de la rédaction de Mediapart et co-réalisatrice du documentaire Media Crash qui a tué le débat public. En tout cas, le débat public, il n'est pas mort ce soir autour de cette question-là. C'est déjà une chose. Les milliardaires achètent-ils de l'influence? C'était la question que nous posions à nos trois invités. Le temps du débat a été préparé ce soir par Candice Bergeron, Mathias Mégy, Fanny Richet, Anouk Sedno, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda, avec à la technique Jean-Guilain Meige.